France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Jean Rouche, ce n'était pas seulement l'Afrique, comme l'on sait. Moins loin que le Niger, il y avait Paris. La tribu des Parisiens, et à ces Parisiens anonymes, un certain été, il y avait quelques questions à poser. Ou une seule, pour commencer. C'était les débuts du cinéma direct, avec les problèmes de la caméra bruyante, mais on invente toujours le système D. Un film qui n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et par des femmes. Un film signé Jean Rouche et Edgar Morin, et 30 ans après la sortie du film, une série d'émissions sur France Culture dont vous allez pouvoir entendre la première et la dernière. Chronique d'un été par Jean-Pierre Pagliano, réalisation Claude Giovanetti. Voici la première émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 juillet 1991.
Lorsque les héros de cinéma ne meurent pas à la fin de l'histoire, on est parfois tenté de se demander ce qu'ils deviennent après le film, ce qui pourrait leur arriver encore, comment ils vieilliront. Ces questions sont en général vaines et absurdes, puisque les personnages de fiction n'existent bien sûr que sur l'écran. Il en va tout autrement lorsque les acteurs d'un film interprètent leur propre rôle, se livrent devant la caméra à une sorte de jeu de la vérité. C'est le cas de l'œuvre de Jean Rouche et Edgar Morin, Chronique d'un été, sous-titré Paris 1960, qui a obtenu le prix de la critique internationale au Festival de Cannes 1961. 30 ans plus tard, nous avons eu envie de redonner la parole aux auteurs, aux techniciens, aux protagonistes de ce manifeste du cinéma vérité, d'évoquer avec eux cette expérience audacieuse et ambiguë, de savoir surtout ce qu'ils sont devenus. Nous sommes partis à la recherche de Nadine, de Marie-Lou, de Landry, d'Angelo, de Jacques et des autres, en espérant retrouver au fil des témoignages et des portraits quelque chose de la couleur et du parfum des années 60. Nous avons voulu reprendre les interrogations du film, lui donner 25 prolongements qui seront comme la chronique de l'été 1991.
Ils ont commencé à me dire ceci, enfin le chef de service m'a dit « Alors on fait du cinéma ben. ».
Mais qu'est-ce qui est pas vrai, on peut pas mentir devant une caméra quand même.
C'est pas du noir et blanc, c'est du gris sur gris. Enfin, plus foncé, un peu moins foncé. C'est emmerdant.
Si la majorité des Français manifestaient leur opposition, et manifestaient publiquement.
Mais pour quel but?
Pour faire cesser cette guerre absurde.
Seulement, je me souviens, il y a deux ans, au 14 juillet.
Chronique d'un été.
Mais non,
la jeunesse agressive,
la jeunesse active, et
pourquoi
agressive, je suis parfaitement d'accord.
Et pourquoi?
Parce que c'est la
seule. Parce qu'à 20 ans, on peut tout faire, parce qu'à 20 ans, on est disponible.
Ouais, c'est pas vrai.
Je ne sais pas, c'était con, mais ça me faisait du bien d'être mal.
C'est très vaseux, je pense.
Tu peux sortir de cette vase dans laquelle tu te complais.
Jean Rouche.
Le point de départ, c'est le Festival des Peuples, Festival des Popoli de Firenze à Florence, que nous avons inauguré avec Edgar Morin. Edgar Morin était passionné par les films que l'on faisait. Et on avait fait créer par les Italiens à Florence un Festival des Popoli qui était en fait un festival de films ethnographiques et sociologiques.
Les hommes venus des calmes savanes du Nord doivent se réfugier dans les faubourgs de la ville. Et là, tous les dimanches soirs,
Et à ce premier festival, moi j'avais présenté Maître Fou, mes amis étaient venus présenter les premiers films italiens, en particulier Carpitella et Diego Carpitella et La Tarentelle, d'après les études des Martino sur les possessions en Calabre. Un film italien, Magia Lucane, la magie en Lucanie, je ne sais pas comment ça se dit en français. Et puis là, Edgar me dit, mais écoute, tu ne serais pas prêt à tourner avec moi un film sur ta tribu, parce que tu parles des autres, qui est la tribu des Parisiens. Je lui dis, écoute, moi j'ai passé 4 ans pendant la guerre en dehors de France. Depuis que je suis rentré, tous les ans, je passe 6 mois en Afrique, 6 mois à Paris et 6 mois ailleurs. Donc effectivement, je n'ai pas de grand contact à Paris, si ce n'est avec les gens de la Cinémathèque française et les gens du Musée de l'Homme, en fait, c'était cela.
Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité.
Je dis, mais moi je ne connais pas le sujet, il me dit, mais est-ce que tu serais prêt, on ferait une enquête cinématographique, il serait intéressant de la faire maintenant. Et là, il me dit, pourquoi, c'est que à cette époque, en 60, au printemps 60...
La métropole,
60,
l'Algérie, le monde entier...
L'Algérie étant actuellement ce qu'elle est, et le monde, ce que nous savons.
On espérait que la guerre d'Algérie allait prendre fin.
J'espère que ça finit vite.
Je regrette ce malentendu entre Français.
Allô Paris ?
Oui ?
Allô Paris ?
Allô, je vous entends, oui.
Il me dit, ça va changer beaucoup de choses en France, et ce serait bien de commencer avant. Et on ferait un film historique. Alors, c'est une idée très belle, et puis ça ne s'est pas passé. Mais enfin, on a commencé le film. Le point de départ était simplement « Comment vis-tu ?» Donc, de commencer comme une enquête sociologique, et à ce moment-là, comme il connaissait Anatole Dauman, il est allé voir Anatole qui a dit « Bon, je marche ». Et on a mis au point tout un système d'enquête.
Plaît, êtes-vous heureux ? Il m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre ? S'il vous plaît,
bien, monsieur.
Êtes-vous heureux ? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît.
Pas le temps, je m'indique déjà beaucoup, alors là...
Est-ce que vous êtes heureux, monsieur ?
Oh, ne me parlez pas tout ça. Hein.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux ?
On a tout de suite mis dans le coup Marceline Loridan, qui était une de ses vieilles camarades et qui était l'une des plus jeunes déportées de France, qui était donc quelqu'un de dramatique, qui habitait du côté de la place Pigalle, dans un appartement situé au 3e ou 4e étage, et que l'on a commencé à prendre comme studio pour tourner, ce qui donnait en même temps un coup de main à Marceline. Ça lui donnait quelques revenus, et en même temps, ça l'habituait un peu à ce que devait être le cinéma.
En ce moment, vous n'êtes pas intimidé, tout de suite.
Non, tout de suite, là, non.
Bon, alors, vous n'êtes pas intimidé maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, il est toujours temps de couper. Donc, vous n'avez pas à être intimidé.
Mais je suis moi maintenant tout à l'heure parce que j'ai pas été attaqué de front, je crois.
C'est ce brigand là.
Oui.
Bon alors, vas-y, moi, attaque.
Bon, j'attaque quand même, écoute. Oui. Tu ne sais pas les questions qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouche. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu ?
À cette époque, donc en 60, le son. Ce que nous avons appelé plus tard le son direct, n'existait pratiquement pas encore. Il y avait bien la possibilité de tourner soit avec une caméflex blimpée, c'est-à-dire dans un blim de protection pesant près de 40 kg, ou une Ariflex blimpée, Il y avait bien l'idée d'un pilotage d'une agra par une tête pilote qui permettait d'assurer la synchronisation, mais il manquait donc la caméra mobile portative et insonore. Alors nous avons commencé à tourner à Paris, donc dans le studio de Marceline, et le film était un peu un film d'interview qui nous semblait finalement assez rasoir. Mais en même temps, moi je découvrais avec stupeur ce que j'ai appelé plus tard moi le petit monde d'Edgar Morin, car les gens que Marceline nous a présentés étaient tous des gens qu'il connaissait très bien et qui étaient des gens un peu des marginaux de cette époque, des gens, si vous voulez, qui étaient sortis du Parti communiste, qui étaient sortis de la résistance, entrés au Parti communiste et sortis au moment de Budapest, c'est-à-dire des gens qui avaient perdu leur père et leur mère, et qui tout d'un coup étaient un peu dans le cirage. C'était, pour un exemple, c'était Marguerite Duras, si vous laissez, ce genre de personnes qui avaient eu un sacré coup d'idéologie et qui continuaient à être au fond d'eux-mêmes décidés à changer la société, mais avec quel modèle ?
J'ai fait des enquêtes de psychosociologie dans une boîte de psychosociologie appliquée. Mon travail est de faire des interviews, d'analyser ces interviews, éventuellement en faire les synthèses, ce qui m'absorbe quand même pas mal de temps, je crois.
Ça vous intéresse ?
Non, pas du tout.
C'était donc Marceline, et Marceline, à ce moment-là, était axée sur le soutien de la guerre d'Algérie, ce que nous étions tous. Le producteur Anatole Dauman avait signé l'appel des 121, ce qui lui a valu quelques ennuis à la télévision pour la vente de ses films. Le petit copain de Marceline, Jean-Pierre Sergent, était un des activistes soutenant le FLN. Son camarade de Cagnes était Régis Debray, qui allait rentrer à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm.
Et ça, c'est la première chose à dire. On oublie tout le temps de la dire. C'est-à-dire, on s'installe dans une sorte d'habitude consentie, dans une sorte de consentement à un état de fait. En fait, il se passe là-bas des crimes ou qui ne sont pas des erreurs, qui sont des faits et que la plupart des gens refusent de voir.
À côté, il y avait Marie-Lou, italienne réfugiée, elle aussi en rupture et de société et d'idéologie. Et qui travaillait comme secrétaire au Cahier du cinéma.
J'étais bourrée de mauvaise conscience quand je suis venue à Paris.
Et Edgar Morin, qui avait travaillé sur la condition ouvrière, sur le travail parcellaire, nous a introduit auprès des gens qui travaillaient là-dessus aux usines Renault, et qui étaient donc Angelo, un des ouvriers révoltés de l'usine.
Ça, quand j'arrive le matin, quand j'arrive devant la porte de l'usine, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que je me révolte, et puis je dis, oh, puis après tout, je m'en fous. Hein.
Moi, j'ai pas entendu un mec qui me dise que son boulot est...
Mais oui, Marzillo, vous avez les mêmes sentiments que lui ?
Oui, à peu près.
Très vite, moi, je me suis aperçu que le film qu'on allait faire était un film terriblement statique, qui ne bougeait pas, c'était impossible, il était difficile de filmer, amener le tripode, etc. Et moi, j'étais pas habitué à faire cela. J'avais fait quelques prises de vue qui m'avaient bouleversé, comme la prise de vue de Marie-Lou, lorsque...
C'est
surtout... à la caméra quand il y avait ce gros plan sur elle.
C'est vivre ou crever, même.
Et qu'elle dit à Edgar, en lui expliquant le stress dans lequel elle vivait, l'angoisse, elle disait « Je n'ai même pas le droit de me suicider, ce serait faux. »
Même pas le droit de me tuer, tu comprends, ça serait faux, absolument faux.
Et là, moi, j'ai continué à tourner, et elle était devant la fenêtre de la salle à manger de Marceline, qui était au quatrième étage, et la fenêtre était ouverte. Alors, j'ai fait un petit signe à mon assistante, en continuant à tourner, en lui disant, si elle bondit, tu la rattrapes, parce que Moi, j'étais tellement surpris de cela, je me suis dit, il ne faudrait quand même pas que le tournage de ce film déclenche pour le geste un suicide. Donc, je découvrais ce monde avec une énorme surprise et une très grande curiosité. Et donc, Edgar Morin m'avait accroché avec tout cela et on était prêt à suivre. Malheureusement, sur le plan de la technique, ça me semblait extrêmement difficile. Je revenais d'avoir présenté des films aux États-Unis où j'avais rencontré l'équipe de l'Office national du film, en particulier Michel Brault, qui était en train d'expérimenter à Montréal de nouvelles techniques de tournage, qui utilisaient des objectifs nouveaux, qui utilisaient les premiers micro-cravates. Je me dis, mais c'est ridicule qu'on continue à tourner avec une technique aujourd'hui dépassée, alors qu'il faudrait que cette caméra, cette maudite caméra, pèse 10 fois moins et puisse bouger. Et j'ai proposé à Anatole Daumont de faire venir Michel Brault, qui allait nous donner une prodigieuse leçon de cinéma en utilisant les techniques nouvelles.
C'est aussi désert cette place de la Concorde. Qu'il y a 20 ans. 15 ans.
Très rapidement, on a pu utiliser des micro-cravates. Et très rapidement, Michel a dit ben, il n'y a pas de raison. Si on tourne des gens qui marchent dans la rue, on mettra le Nagra dans le.
On travaillera dans les usines. On se verra le dimanche, je disais papa.
C'est la raison pour laquelle Marceline trimballe une sacoche extrêmement lourde. Il y a le Nagra qui est dedans et elle a un micro-cravate. Et les premières séquences qu'on a tournées, Michel Brault s'est mis à tourner avec les objectifs interdits jusque-là, qui étaient le 10 mm, le grand angle, qui permettait de marcher très près les gens que l'on tournait. Et on a tourné de cette manière, d'abord dans un travelling fait en deux chevaux, sur la place de la Concorde, c'était le premier plan qu'on a tourné, où Marceline, c'était je crois le 15 août, il me semble me souvenir. C'était le jour où Clément tournait Paris brûle-t-il. Alors il y avait encore des étiquettes de la commandanture, enfin ils avaient reconstitué ça, et il y avait quand même trop de bruit de voiture, les techniciens du son disaient c'est bruyant, et on a décidé d'aller tourner aux Halles, et on a tourné ce plan que j'aime énormément de Marceline qui s'en va dans les Halles, et qui tout d'un coup avait confiance parce qu'elle avait le micro, elle savait qu'on n'écoutait pas ce qu'elle disait, qu'elle pourrait toujours le censurer. Et Michel avait une idée formidable, qui était de poser la caméra sur l'arrière de ma deux chevaux. Et on poussait la deux chevaux, et à un moment donné, il me dit « Laisse, on va laisser mourir ». Et la caméra s'arrête d'elle-même, tout doucement. Et elle s'approchait, on ne savait pas ce qu'elle disait.
« Tu m'as appris ta petite fille. J'étais presque heureuse de te déporter avec toi, tellement je t'aimais. Papa. Papa, que je voudrais t'avoir maintenant. »
On l'a découvert en projection après. Et là, on savait qu'on était sur un film. Les techniciens n'étaient pas d'accord, parce qu'on ne lâche pas une caméra sans viseur, personne ne visait. La caméra, on avait fermé le viseur et la caméra tournait toute seule. Considérait que c'était prendre un risque considérable que de faire ce plan. Et il a fallu qu'on les convainque. C'était très beau. Effectivement, je crois qu'on avait raison, on s'est battu pour ça. On avait raison de considérer que ceci était un moment très dramatique. Alors, le film démarrait. En même temps, nous avions trouvé chez l'ingénieur qui mettait au point les caméflex un petit prototype d'une caméra 16 mm qui devait être envoyée dans les premières fusées qui partaient du Sahara à ce moment-là. Et qui est donc une caméra très légère, 16 mm. Et Coutant, André Coutant, merveilleux ingénieur, en nous voyant tellement passionnés avec Michel Brault, dit ben, « je pourrais essayer peut-être de lui mettre un petit moteur asynchrone, synchronisé, quelque chose de ce genre, et je suis prêt à l'essayer avec vous ». Donc on a tourné à ce moment-là avec une caméra qui était un prototype, et en faisant les essais d'un prototype, on a fait en même temps un film. Ce qui était, je dois dire, un risque énorme que prenait le producteur, que prenait Edgar Morin, qu'on prenait nous-mêmes et que prenait Coutant, puisque on ramenait la caméra tous les soirs dans l'atelier d'André Coutant à Neuilly. On lui disait, elle chauffe, elle fait ceci, il y a cela, elle raye, et il a déraillé, il la remettait au point, on la reprenait le lendemain, on continuait. C'est comme ça que le film est né dans un très grand enthousiasme, à la fois par la découverte de ce sujet très extraordinaire, et ensuite par la mise au point d'une nouvelle caméra qui allait tout changer. Peu à peu, Comment vis-tu est devenue la chronique d'un été dans lequel la paix n'est pas revenue en Algérie, mais qui est un moment de l'existence de la Nation française.
Chronique d'un été. Jean-Pierre Pagliano. Jean-Pierre Juncker, Bernard Laniel, Claude Giovanetti.
Cette première émission de la série Chronique d'un été a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 juillet 1991. Une série d'été, cette chronique d'un été, dans le passé, chronique cinématographique et le dernier jour de la diffusion de cette série, le 30 août 1991, Jean Rouch et Edgar Morin se livraient à un bilan et réfléchissaient à une suite à la demande du producteur de la série radiophonique.
Ils ont commencé à me dire ceci, enfin le chef de service m'a dit « Alors on fait du cinéma maintenant ».
Mais qu'est-ce qui est pas vrai, on peut pas mentir devant une caméra quand même.
C'est pas du noir et blanc, c'est du gris sur gris. Foncé, un peu moins foncé. C'est emmerdant. Tu comprends?
Si la majorité des Français manifestaient leur opposition, et manifestaient publiquement.
Mais pour quel but?
Pour faire cesser cette guerre absurde.
Seulement, je me souviens, il y a 2 ans, au 14 juillet.
Bon. Chronique d'un été.
Mais non,
la jeunesse agressive,
active.
Et pourquoi?
Je suis parfaitement d'accord.
Et pourquoi?
Parce que c'est la
parce qu'à 20 ans, on peut tout faire, parce qu'à 20 ans, on est disponible.
Ouais, c'est pas vrai.
Je ne sais pas, c'était con, mais ça me faisait du bien d'être mal.
C'est très vaseux, je pense.
Tu peux sortir de cette vase dans laquelle tu te complais.
Jean Rouch, Edgar Morin, nous voilà arrivés au terme de notre parcours, la dernière des 25 émissions consacrées à Chronique d'un été. Et pour cette dernière émission, on aimerait bien que vous prêtiez à une sorte de jeu, qui pourrait être plus qu'un jeu d'ailleurs, qui consisterait à vous demander comment pourriez-vous imaginer Chronique d'un été 1991 ?
Je vous pose tout de suite une question, je m'excuse Edgar, est-ce que c'est envisager la suite avec les mêmes personnages ou un autre film?
C'est précisément une des questions qui se posent.
Oui, a priori je penserais que ce serait un autre film, parce que Chronique d'un été, disons, c'est un film lié à un certain nombre de personnes, et il est certain que, ou bien on pense reprendre ces personnes en 91, ou bien on fait un autre film sur l'été 91 avec d'autres gens. Mais si vous voulez, moi, je voudrais faire une réponse préliminaire à votre question. Parce que, bon, nous, quand une époque, une année surtout, on en comprend le sens et la place qu'après. Je dis longtemps après, il faut au moins 10 ans. Par exemple, l'année 91, on peut dire que le début, c'est l'année de la guerre du Golfe. Mais moi, je dirais, le sens de la guerre du Golfe ne se dégagera qu'en fonction de ce qui va arriver dans les mois qui viennent d'abord, savoir s'il y aura un règlement ou non au Proche-Orient, savoir les conséquences indirectes et inattendues de cette guerre. Mais je trouve, par exemple, regardez, quand vous lisez les magazines, comment les Français font l'amour en 91, ou comment... C'est grotesque. C'est grotesque. On essaye toujours de donner un sens à l'année, mais c'est pas vrai. Parfois, une année explose, comme l'année 68. Alors là, voilà une année. Mais même en 68, sur le moment, on voit des choses, mais le sens de 68 va se transformer au cours des années. Le regard qu'on a en 78 et en 88 n'est plus le même. Voilà ce que je peux dire.
Ce qu'il y avait d'intéressant en 60, c'était que, en fait, tout ce groupe de gens, dont toi, dont moi, nous étions en train de préparer, sans le savoir, ce qui allait se passer en 68, c'est-à-dire une complète remise en question d'un certain nombre de choses que l'on croyait acquises. Bon, ça paraît pas d'une façon très nette, effectivement, tu as raison, ça paraît a posteriori. A posteriori, quand on voit ce que sont devenus tous les gens qui ont participé à ce film, c'est sans doute dans ces années 60 qu'une partie de leur fatum, de leur destin, c'est fait, c'est un peu une espèce d'examen de passage. Et moi, j'en reviens à mon dada, bien entendu, sur le plan de la technique, ça a été le début de quelque chose qui est peut-être en déclin aujourd'hui, mais qui était la possibilité d'utiliser une caméra, un son synchrone, de fabriquer ce que Rouspoli a appelé le cinéma direct. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est ça ce qu'il fallait faire? Alors, en voyant cette opération, si je me place en 91, d'abord, j'estime que nous avons une chance folle, toi et moi, d'être vivants, d'avoir assisté à ce... Enfin, on a un roman policier qui s'appelle « La vie ». Et il y a toutes les années, c'est un suspense incroyable. Enfin, ce qui était vrai hier ne l'est plus le lendemain. Moi, j'ai appris ça un peu en 68 avec l'ami Cohn-Bendit qui, avec une parfaite franchise, renonçait le lendemain à ce qui avait été décidé la veille. Donc, il y avait une espèce d'invention permanente. Alors, si on devait faire en 91 une chronique d'un été, et nous sommes dans cet été-là en ce moment, ce serait, effectivement, en revenant sur ce que tu as dit, que ces films restent un témoignage irremplaçable de gens qui, à un moment donné, ont dit, avec une assez grande franchise, ce qu'ils pensaient, qu'ils essayaient de participer à ce travail microscopique de ce qu'ils pensaient. Quand je vois notre ami Richard Leacock, qui a fait la même chose aux États-Unis, au même moment, quand il a tourné Primary, quand il a tourné Kubasi, quand il a tourné Au pays des fantômes blancs, etc., quand il s'est lancé avec Penny Baker dans cette série d'aventures, lui-même faisait une expérience, et techniquement, et éthiquement, semblable. Est-ce de la sociologie? Est-ce de l'anthropologie? Moi, je dirais plus modestement, c'est de l'ethnographie, c'est-à-dire nous faisons du graphos et non pas du logos, nous ramassons des faits. Et ces faits sont là, ils existent. Ils existent et effectivement, lorsqu'on avait parlé de ce problème de refaire Chronique d'un été 20 ans après, et on avait un peu renoncé parce que c'était un peu anecdotique. Enfin, c'était des gens, qu'est-ce que vous avez fait? Et moi, personnellement, je n'avais trouvé aucun truc. Je n'avais trouvé aucun moyen qui était de remettre ça en question. Mais où je pense qu'il y aurait quelque chose à faire et qui me paraît dramatique et extraordinaire, c'est... ce n'est pas comment vis-tu, c'est comment avons-nous pu nous tromper aussi complètement pendant toutes ces années. C'est-à-dire, comment avons-nous été obligés d'accepter le changement? Comment était-il... Pourquoi? Je prends un exemple personnel.
pourquoi avons-nous accueilli en 60 justement l'indépendance de l'Afrique comme une fête révolutionnaire permanente? Comment avons-nous pu, comment nous sommes trompés sur Kwame Nkrumah, sur Sékou Touré, sur la plupart de ces gens? Et maintenant que tout ceci est tombé dans un épouvantable gâchis, il ne s'agit pas de faire mea culpa. Il s'agit de se dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ce soit autrement.
Oui, mais quand même, je voudrais dire quelque chose de plus.
Vas-y.
De plus, parce que, en réalité, bon, nous avons fait sans le savoir une biopsie.
Hein, oui.
Quelques biopsies. De quoi? Nous avons fait un prélèvement d'ouvriers spécialisés d'OS, avec Angelo, avec Moté. Ils nous ont fait un prélèvement, évidemment, chez des êtres marginaux, mais qui révélaient par eux-mêmes le malaise du quotidien. Et dans le fond, on a fait une biopsie sur des problèmes de fond de notre cité, de notre civilisation. Mais ce que je crois, alors, c'est que justement, dans ce film, il n'y a pas eu d'erreur, dans le sens, il n'y a pas eu d'illusion. Il faut penser qu'à l'époque, le climat de l'intelligentsia de gauche était soit dans l'exaltation du PC, soit dans le maoïsme qui prenait enfin son élan, le castrisme, et puis il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'idéologie du FLN, où on disait que le FLN était l'avant-garde de la révolution mondiale. Bon, nous avons parlé de la guerre d'Algérie, nous n'avons pas pensé que le FLN joue un rôle d'avant-garde de la révolution mondiale. Nous étions pour l'indépendance de l'Algérie, ce qui me semblait tout à fait, sur le moment, et aujourd'hui, légitime. Mais, bon, et du reste, pas d'illusion sur le PC, c'est pour ça que ton grand ami Sadoul était furieux contre ma présence dans ce film. Autant il t'exaltait, autant... Parce que sa haine, pour ce qu'il considérait hitléro-trotskiste, n'est-ce pas, était telle que... Évidemment, il ne retrouvait pas les thèmes. Je pense donc sur le plan de l'idéologie, des idées, on n'a pas versé dans les illusions qui régnaient à l'époque, disons, dans notre monde de ce qu'on appelait la gauche et l'intelligentsia de gauche. Et, bon, je dirais aussi, il n'y avait pas la crise, ni la crise culturelle de 68, ni la crise économique de 74. Seulement, je pense que notre film est crisique. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a un mal, quelque chose qui couve, n'est-ce pas? Il remarque peut-être aussi du fait que les situations où on avait fait nos entretiens étaient paroxystiques et par eux-mêmes crisiques. On faisait sortir la crise. Mais moi, je crois que là-dessus, ça répond à quelque chose. C'est-à-dire que je crois que nous sommes dans une crise de... Enfin, il y a une crise de... Plus notre société va se développer, c'est-à-dire plus avec le monde technocratique, bureaucratisé, chronométrisé, le monde de la productivité, le monde de la réduction de toute l'économie, etc.
Arrête, Edgar, tu vois, tu es un magicien, tu parles de ça et le soleil se couvre.
Et le soleil se couvre.
Tout d'un coup, là.
Oui, mais le soleil se couvre.
Et l'arquebusier devient grise.
Et puis il revient. Mais ce que je veux dire, c'est que on vit dans. C'est une société, je crois, qui. Bon, sous un certain angle, ça fonctionne, il y a un accroissement quantitatif. Il y a du mieux toujours quand on voit les quantités, et il y a du moins bien quand on voit les qualités, hein, peut-être. Et je pense qu'une crise réapparaîtra. Je ne sais pas laquelle et sous quelle façon.
Moi, si tu veux, tu m'as reproché, tu ne me reprochais pas, mais enfin, dans ton dialogue, il est très souvent, quand tu t'adresses à tes filles, dans ce petit passage à Saint-Tropez, et tu dis, où je dis que...
Et Jean qui rit, Edgar.
Oui, que, bon. En fait, pourquoi j'étais heureux? Parce que j'étais heureux de découvrir, justement, ton inquiétude. Et ton inquiétude, pour moi, la seule chose que l'on puisse faire dans des états de crise, et pratiquement, depuis que je suis né, on a toujours été en état de crise, c'est ce qu'il y a de beau. C'est peut-être d'ailleurs inhérent au système, au système lui-même, je ne sais pas, c'est peut-être le bon Dieu ou le diable qui ont mal fait l'histoire, il y a peut-être quelque chose. Mais enfin, dans tout cela, l'état de crise a l'avantage de mettre, moi ce que j'appelle, de mettre en circulation des objets inquiétants. Et pour les gens de notre génération, pour Sadoul et les autres, qui les gens inquiets, qui n'aimaient pas virer leur cutie toutes les semaines, c'est dur, on posait des questions qu'on n'aurait pas dû poser. Et la chance, et c'est toi qui as eu l'idée au départ, tu posais une question qui n'était pas négative,
qui était, c'était pas êtes-vous malheureux, c'était êtes-vous heureux. Et les réponses que nous avions étaient très diverses, même dans les rues de Paris, quand Nadine et Marceline posaient des questions. Mais moi, ce qui m'épate le plus dans cette histoire, c'est que tous ces gens, dans ce film, du moins l'image qu'ils en donnaient, ils s'assumaient. Ils s'assumaient comme ayant leur responsabilité, leur présent, leur passé, leur présent et leur futur entre eux, et ils n'avaient rien à attendre du reste. C'est-à-dire, c'est quand même un grand moment où il y a un triomphe d'un individualisme forcené. Et ce qui, moi, m'intéresserait, c'est justement quel a été le chemin qui était parcouru. Par exemple, des gens qui étaient de... Prenons Yoris et Marceline, qui étaient pendant très longtemps des maoïstes sans faille. Bon, comment est-ce qu'ils ont pris la découverte que, en fait, Mao et le reste étaient les mêmes? Comment est-ce qu'ils prendront nos copains, peut-être Régis, comment prendra-t-il le moment où Fidel sera forcé de partir? Moi, j'ai vu ces choses en Afrique. Les gens pour lesquels je n'avais aucune sympathie, qui étaient les gens qui ont fait le coup d'État au Niger, qui étaient de jeunes capitaines, auxquels on croyait, curieusement, parce qu'ils avaient été formés dans l'armée française. Et on découvre aujourd'hui que tous ces gens, qui étaient droits comme leurs épées, qui étaient incorruptibles, étaient en fait des corrupteurs totaux qui donnaient l'argent du trésor public pour le distribuer à leurs jeunes officiers pour en faire la garantie de leur pouvoir. C'est invraisemblable comme histoire. Et les Nigériens découvrent ça après 15 ans ou 20 ans de cela.
Oui. C'est-à-dire que je pense aussi à cette autre chose, c'est que si on avait fait 20 ans après, ou même 30 ans après, avec les mêmes... Alors tout serait changé, il y aurait eu le principal acteur, ça aurait été le temps. Ça aurait été le temps.
Évidemment.
Ça aurait été le temps.
Évidemment.
Enfin,
évidemment.
Et sans doute c'est ça qu'on a raté, c'est de faire un film sur le temps.
J'en suis pas si sûr.
Oui, le temps.
Parce que quand on revoit ces gens, toi et moi, quand on se revoit dans ce film, quand on revoit Marceline, quand on revoit Régis, quand j'ai revu Jean-Pierre, on n'est pas trop mal.
Non, mais la question n'est pas d'être mal. Le temps, le temps, mais le temps, le temps dégrade ou il bonifie, remarque. Le temps a différents aspects, puis c'est pas tellement sur le plan moral, parce que regarde Marceline, c'est extraordinaire. Dans le film, elle est orpheline. Enfin, ce qu'elle vit, c'est le fait de la mort de son père, c'est pas seulement. Or, quand on l'a vue au Musée de l'Homme, à la projection, elle était orpheline de Joris Ivens. Hein, il y a une sorte de boucle du temps. Enfin, quand même, c'est étonnant, le temps.
Oui, mais je dirais, elle était orpheline d'un amour.
Mais non, mais c'est un homme qui était son père. Oui, mais pardon, mais l'homme, oui, bien sûr, mais Joris Ivens, c'était pas aussi par hasard qu'il était plus âgé que Marceline et qu'il était une figure paternelle. C'est-à-dire, non, le temps accomplit une grande boucle pour le temps, c'est pas tellement le vieillissement ou la dégradation. Le temps, c'est le voyage que l'on fait dans la vie. Regarde, Régis Debray, c'est un voyage absolument incroyable. Oui. Incroyable, qui le fait partir chez Castro, qui le fait aller en Bolivie, et qui en fait après le second de Mitterrand, et qui le fait après vomir Mitterrand. Et c'est tout à fait curieux. Jean-Pierre, jeune homme révolté, je ne sais pas, je vois mais enfin, il fait une revue, un peu de consommation, ça m'intéresse.
Oui, bon.
Enfin, la vie nous amène ici, nous amène là, et parfois certains retrouvent leur chemin, retrouvent leur fatalité, leur obsession, et d'autres dérivent par rapport à leur propre vérité. C'est ça l'interrogation sur le temps, ce que chacun peut méditer sur ce que le temps fait de lui. Voilà. C'est ça que j'aurais été un film. Voilà, c'est ça que...
Je vais le dire à ce moment-là, c'est pas moi, je m'excuse de contredire, c'est pas la première fois. C'est pas, le temps ne serait pas l'auteur, le temps serait l'acteur. Il serait le cours.
Oui, l'acteur. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, l'acteur. Oui, oui.
Et là-dedans, il mènerait le jeu.
Oui, mais c'est
lui. Il mènerait le jeu. Il serait l'acteur, un acteur particulièrement dangereux, parce qu'il nous sèmerait des petites surprises au détour de chaque chemin.
Tout à fait. Mais c'était 20 ans après. Ça veut dire, 20 ans après, on a mûri, on est ceci. Mais 30 ans après, mais qu'est-ce que la vie a fait de vous? C'est extraordinaire comment les choses changent selon les décennies. 10 ans après, c'était pas mal déjà. Hein, oui. C'était intéressant.
On a pas fait, il aurait fallu faire une chronique.
Non, mais 30 ans, oui, tous les 10 ans.
Tous les 10 ans, oui. Voilà. Les chiffres ronds.
Eh bien, laissons à nos successeurs le soin d'imaginer un tel film.
Ça a été fait pour un autre film que j'ai fait, que tu as peut-être vu, qui était Paris vu par, qui est un truc qu'on avait fait avec les copains La Nouvelle Vague. Et le jeune réalisateur ont décidé de faire Paris vu par numéro 2. Alors nous avons vu ça, nous les anciens de Paris vu par, avec une certaine curiosité. Et il y a un peu le côté ressuscé, ça marche pas, ça qui est drôle. Hein, c'est difficile de prendre la relève. Mais si tu vois des gens qui seraient capables de faire cela dans ton domaine, quelques jeunes penseurs, moi je peux penser à de jeunes cinéastes.
Faut pas trop penser, il faut pas trop faire du cinéma. Voilà, ah oui, alors ce qui fut notre cas.
C'est une conclusion très négative, Edgar.
Mais au contraire, c'est très positif. C'est très positif et nous pourrons les trouver justement, de façon à ce que les enfants de nos réalisateurs ici même puissent faire l'émission qui suivra dans les décennies suivantes.
Ce sont les chaînes.
Chronique d'un été. Jean Rouch, Edgar Morin. Jean-Pierre Pagliano, Guy Senot, Claude Niort, Claude Giovanetti. Merci à tous les protagonistes et techniciens du film, ainsi qu'à Argos et aux archives sonores de l'INA.
Ces deux volets de la série Chronique d'un été ont été diffusés respectivement le 29 juillet et le 30 août 1991.